des sorcières en Écosse. Entre le 16e et le 18e siècle, 3000 à 4000 personnes sont torturées avant d'être condamnées au bûcher ou à la pendaison. Il n'y avait aucune indulgence envers les sorcières que l'on estimait porteuses de forces malveillantes. Lilia Sadi sera, bien malgré elle, une de ses nombreuses victimes. À cause d'une accusation qui, non seulement ne tient pas la route, mais qui en plus a été prononcée par une voisine qui simplement la déteste, Lilia Sadi verra sa vie basculer. Que Nora passe voir son amie Lilias le lendemain après-midi, elle hésite à lui parler des deux hommes habillés de noir qui l'ont suivi hier jusque chez elle. Elle ne souhaite pas faire peur à son amie, mais d'un autre côté, elle aimerait la mettre en garde. Mais en garde contre quoi ou qui, se demande finalement Nora. Ne serait-il pas déjà venu la chercher s'ils avaient pris les accusations de cette vieille folle au sérieux? Deux jours plus tôt, Nora est allée au marché et elle avait entendu que l'Inquisition ne tarderait pas à emprisonner les soi-disant sorcières. On prétendait qu'il était bien trop dangereux de les laisser en liberté, car elle risquerait de jeter des sorts aux villageois. Les deux amis passent l'après-midi ensemble, en évitant soigneusement le sujet. Lilias parle de sa réserve de fleurs qui diminue à vue d'œil, pendant que Nora lui raconte les aventures de sa cousine, habitant dans le village voisin. L'atmosphère est détendue, et c'est ce qu'il faut aux deux femmes pour oublier, le temps d'un moment, ces persécutions qui n'en finissent plus. Il est déjà tard lorsque Nora quitte son amie pour retourner chez elle. Le lendemain matin, le soleil est à peine levé lorsque ces fameux deux hommes frappent à la porte. Ils demandent de la suivre sans faire d'histoire. Ilias est effrayé, mais tente de ne rien laisser paraître. D'une voix qu'elle se veut forte et assurée, elle demande de quoi elle est accusée. Aucune réponse. En pleine maîtrise d'elle-même, elle ose leur résister en leur disant qu'elle ne les suivra pas, qu'elle n'aura pas obtenu d'explication. Un léger agacement sur le visage des deux hommes est perceptible. Lilias sait au fond d'elle-même que sa réaction ne joue pas en sa faveur, mais elle ne peut se résigner à se rendre si facilement. Elle n'a rien à se reprocher et devrait pouvoir les suivre la tête haute, mais elle n'y arrive pas. La peur a pris possession de chaque parcelle de son corps. Après un face-à-face qui semble durer des heures, mais qui ne prendra que 10 minutes, Lilia Sadi se voit conduire fermement jusqu'à la prison à quelques rues de là. Elle n'aura pas eu le temps de prendre quelques affaires. Elle n'aura pas eu l'occasion de prévenir son amie. Lorsqu'elle jette un dernier regard à sa maison, elle aperçoit sa voisine qui observe la scène, le sourire triomphant. La cellule de Lilias est minuscule. Son seul contact avec l'extérieur provient d'un petit soupirail situé en hauteur. La lumière du jour lui permet de conserver la notion du temps. Le vent qui s'infiltre rend l'air un peu plus respirable. Les bruits de la rue lui font se sentir moins isolée. Voilà déjà une journée qu'elle est enfermée. Elle n'a reçu aucune visite, aucune nourriture, aucune explication non plus. À son arrivée, on lui a tendu une longue robe grise usée par le temps. Le tissu sent mauvais, mais elle n'a pas d'autre choix que de l'enfiler. C'est pour nous assurer que tu ne caches rien sous tes jupons, sale sorcière, lui a-t-on craché à la figure. Voilà les seuls mots qu'elle a entendus depuis son arrestation. Il semble qu'elle se trouve au fond d'un long couloir. D'autres portes s'ouvrent et se referment régulièrement. Elle entend les gémissements de douleur, les supplications, mais aussi les cris. Elle ferme les yeux, surtout. Ne pas paniquer. Elle tente de convaincre qu'il s'agit d'une erreur absurde. Sa vie se résume à ses plantes et à soulager les maux, rien d'autre. Elle n'a rien à faire ici. Au petit matin de sa deuxième journée d'enfermement, Lilias entend la clé dans la serrure. La porte s'ouvre sur un homme au sourire mauvais. Son odeur est telle que Lilias ne peut s'empêcher de grimacer. Cet homme respire le mal. Lorsqu'il prend sans ménagement son bras pour la sortir de sa cellule, elle sait que l'implorer ne servira à rien. Elle est le mal qu'il faut détruire. C'est cela qu'elle a perçu dans les yeux remplis de haine de son bourreau. Lorsque Lilias rentre dans une petite pièce sombre, elle aperçoit, accroché au plafond, un gros crochet dans lequel on a passé une corde. Un homme est assis dans un coin de la pièce. Elle le connaît. Oui, il s'agit du pasteur local. Elle l'a aperçu quelques semaines plus tôt. Elle se souvient de leur regard ce jour-là, lorsqu'elle est rentrée dans l'église. Il n'avait rien de bienveillant. Sur le petit bureau devant lui sont disposées quelques feuilles. Certaines encore blanches et attendant les aveux, d'autres déjà noircies, d'une écriture élégante et serrée, reprenant en détail les faits qui lui sont reprochés. L'homme la regarde se placer sous la contrainte du bourreau sous le crochet. Il lui attache fermement les mains derrière le dos en s'assurant que les bras restent bien tendus. Notre héroïne du jour n'est plus toute jeune. Elle a 64 ans et ses articulations d'épaule ont toujours été fragiles. Elle a déjà mal, alors que le bourreau n'a même pas encore commencé. La peur ne la quitte pas, mais elle espère toujours. Un malentendu, une erreur. L'homme assis derrière le bureau prend la parole. Je ne vais vous poser que deux questions. Elles sont très simples. Votre sort ne dépend que de vous et de votre collaboration. Vous avouez, vous ne souffrirez pas. Les choses sont extrêmement simples. Mais avant de vous poser ces deux questions, il est de mon devoir de vous éclairer sur les raisons de votre présence ici. Vous êtes accusé de pratiquer la sorcellerie et de forniquer avec le diable. Vous êtes accusé d'avoir invoqué Satan afin de jeter un sort à votre voisine. Vous êtes accusé de vous être détourné du Christ au profit du diable. Vous êtes accusé de prendre part à des soirées secrètes avec d'autres sorcières en vue de pratiquer la sorcellerie. L'homme se tait. Lilias est abasourdi. Un rire nerveux lui échappe. C'est de la folie. Elle a envie de hurler au mensonge, mais elle se tait. Car cela ne servirait à rien. Elle vit un cauchemar et prie pour se réveiller rapidement. Tout a un sens. Tout cela est ridicule. L'homme reprend calmement. Première question. Confirmez-vous les chefs d'accusation ? Seconde question. Êtes-vous prête à nous donner les noms des autres personnes présentes à ces réunions ? J'insiste sur le fait que, dans l'affirmative, nous pourrions nous montrer indulgents. Lilias ne dit rien. Un bref signe de la tête de l'homme et aussitôt le bourreau commence à tirer sur l'extrémité de la corde. Les bras de Lilias se soulèvent et le bourreau cesse de tirer lorsque les pieds touchent encore à peine le sol. Elle grimace, mais ne dit rien. Les minutes s'écoulent. Elles deviennent vite des heures. L'homme derrière son petit bureau répète inlassablement les deux questions. Le bourreau, face au silence de la condamnée, continue de tirer sur la corde. Les pieds de la pauvre femme ne touchent plus le sol. Suspendue dans les airs, une douleur fulgurante transperce ses épaules. Les larmes lui montent aux yeux. Elle se mord la lèvre, mais continue à nier les différents chefs d'inculpation. Lorsqu'elle regagne sa cellule au fond du couloir, elle tient à peine sur ses jambes. Par fierté, elle ne gémit pas et tente de garder la tête haute. Son bourreau la pousse sans aucune considération dans sa cellule, ferme la lourde porte et la laisse seule avec ses blessures et ses peurs. Nora a compris dès le lendemain de l'arrestation de l'Ilias que quelque chose de terrible s'était produit. Lorsqu'elle est passée devant la maison de son ami, elle a vu des inscriptions gravées maladroitement sur la porte d'entrée. On pouvait y lire « Sale sorcière, tu as eu ce que tu mérites ». Avec effroi, Nora a regardé autour d'elle, ne voulant croire à l'impensable. Mais lorsque son regard a croisé celui de la voisine et qu'elle y a vu le sourire mauvais sur son visage, elle a compris. À peine retournée chez elle, Nora s'est effondrée en pleurs. Elle savait que la prochaine fois qu'elle reverrait son amie, ce serait sur le bûcher. Voilà déjà 3 semaines que l'Ilias est enfermé et torturé. Elle n'aura pas un jour de répit. Jour après jour, son bourreau viendra la chercher. Jour après jour, l'homme assis derrière son petit bureau posera ses 2 questions sans obtenir les réponses désirées. La malheureuse s'élève de plus en plus haut dans les airs. Hier, on l'a soulevée tellement haut que sa tête touchait presque le plafond. Malgré cela, Ilias se tait. 2 jours plus tôt, elle a été forcée de rester debout durant plus de 24 heures sur un petit tabouret. Interdiction de manger, de boire et de dormir. Elle a cru devenir folle, mais n'a pas cédé. Aujourd'hui, le bourreau change de méthode et lui accroche un poids à ses chevilles. Ses épaules sont sur le point de céder. Ilias s'évanouit de douleur. Sans ménagement, le bourreau retire le poids et décroche la condamnée. Convaincue que les sorcières, grâce à leur pouvoir, étaient capables de résister à la douleur, l'acharnement dont font preuve les bourreaux est tout simplement inimaginable. Certaines sorcières se verront privées de certains sens, comme la vue ou l'ouïe. D'autres verront leurs membres écrasés. Une violence inouïe qui souvent aboutira à des aveux. L'Ilias Hadi sera torturé pendant un long mois avant d'avouer, épuisé. Le verbe « avouer » doit être mis entre guillemets, car il n'y avait rien à avouer. Rien de ce qui était reproché à l'Ilias n'était vrai, mais l'épuisement, la douleur et l'envie que cela s'arrête a poussé l'Ilias à abdiquer et à raconter l'histoire que l'homme voulait entendre. J'étais dans un champ de maïs lorsque le diable est venu me rendre visite la première fois. C'était au coucher du soleil. Le diable portait un chapeau. Sa peau était pâle, froide aussi, et ses pieds avaient la forme de sabots. L'homme lui demande s'ils ont bien eu une relation charnelle. L'Ilias confirme et admet qu'il lui a fait renoncer au baptême. Elle précise aussi qu'après cette première fois, le diable s'est rendu à plusieurs reprises chez elle. Ah, l'homme est content. Au fur et à mesure qu'elle raconte, il retranscrit chaque mot. Qu'importe que cette confession soit le résultat d'un mois de torture, c'est une victoire, encore une. L'Ilias admet avoir participé à des réunions avec d'autres sorcières et en présence du diable. Plusieurs fois, l'homme lui parle de Nora, mais elle ne dit rien. L'Ilias ne donnera le prénom d'aucune autre femme, prétextant qu'elles étaient masquées et donc non identifiables. L'insistance et l'intensité des tortures la pousseront toutefois à révéler certains noms, et ces noms seront bien choisis. Ils n'appartiendront qu'à des personnes déjà décédées. Au bout d'un mois de torture, elle est vaincue. Un mois de torture pour une confession biaisée. Pourtant, cette victoire est de très courte durée, car l'Ilias Hadi mourra avant que la sentence ne soit prononcée. Sa mort, loin de soulager les habitants, les remplira de terreur, car c'est sur le bûcher qu'il aurait dû mourir, et non pas sur le sol de sa cellule. Car il n'y a que le feu qui puisse assurer qu'une sorcière ne revienne du monde des ténèbres. Alors comment faire pour s'assurer que Lilia Sadi ne revienne pas d'entre les morts pour se venger ? Viennent frapper à la porte de Lilia Sadi, elle est loin d'imaginer que son destin va prendre une tournure tragique. Lorsque Lilia Sadi s'entend accuser de sorcellerie par ces deux inconnus se tenant droit comme des i et tout de noir vêtu, elle manque de s'évanouir. Lorsque ces deux personnes lui somment de la suivre immédiatement sous prétexte que l'on ne peut laisser une sorcière en liberté, sous peine que par esprit de vengeance, elle jette un sort à tout le village. Lilia Sadi ose dire non de la tête et demander des explications. Lorsqu'ils perdent leur calme, ou prennent peur, devant son refus d'obtempérer et commencent à la brutaliser, Lilia Sadi comprend que son sort est déjà fixé et que rien de ce qu'elle pourra dire ou demander ne les fera changer d'avis. À leurs yeux, elle est une sorcière, rien d'autre. Et à leurs yeux toujours, elle doit mourir. Nous sommes en 1704, dans la région de Fif, à Torryburn, petit village côtier à l'est de l'Écosse. Dans cette région, la chasse aux sorcières est loin d'en être à son balbutiement. Sur simple dénonciation, des milliers de femmes et d'hommes se verront accusés d'une des nombreuses hérésies de l'Église, la sorcellerie. Lorsqu'on pense au mot « sorcière », on y associe presque immédiatement les mots tels que « torture », « bûcher » ou encore « inquisition » et « diable ». Les tortures, Lilia Sadi les subira. L'inquisition, elle y sera confrontée de la pire façon qu'il soit. Nous sommes le 31 août 1704. Il est environ 9h du matin et c'est l'heure H de mon histoire. L'Est de l'Écosse, elle deviendra en 2019 le symbole de la terrible chasse aux sorcières qui a sévi en Écosse durant presque 2 siècles. Elle sera la représentante de toutes les victimes accusées à tort de sorcellerie. Mais avant que Lilia Sadi ne devienne un symbole, laissez-moi vous raconter les derniers instants de cette femme, surnommée la sorcière de Torryburn. Nora quitte la maison de Lilias, son amie de longue date. Le soleil est déjà haut dans le ciel. Mais il n'arrive pas à donner un semblant de chaleur à cette grisaille qui n'en finit pas. Ce ciel, chargé, reflète l'ambiance générale du village. Les persécutions à l'encontre des sorcières et des sorciers vont bon train. Les deux femmes ne peuvent s'empêcher d'en parler à chaque fois qu'elles se voient. Ces condamnations ne datent hélas pas d'hier. Elles existaient déjà bien avant leur naissance. Mais elles ont cette désagréable impression qu'elles se sont intensifiées ces derniers mois. On aura sent bien que Lilias tente, tant bien que mal, de camoufler sa peur. Tout le voisinage sait qu'elle est passionnée par les plantes, qu'elle en connaît chaque particularité et qu'elle les utilise fréquemment pour soulager douleurs et divers maux. À chaque mal, son remède, aime-t-elle à dire à Nora en souriant. Mais le sourire est forcé et il fait vite place à la peur. Nora sait que leur mode de vie à toutes les deux font jaser. Deux femmes autonomes et sans mari, ça a de quoi susciter méfiance, jalousie, voire haine. Nora se dépêche. Elle n'a pas une minute à perdre. Tenant un panier assez lourd, coincé au creux de son bras, Nora accélère le pas et disparaît au coin de la rue. La mer n'est pas loin. On entend les vagues et l'air est chargé de sel. Perdue dans ses pensées et des propos tenus par son amie, Nora ne remarque pas les deux hommes qui la suivent. Elle est inquiète. Lilias lui a avoué avoir entendu, pas plus tard qu'hier, des rumeurs la concernant. De nature discrète, posée, s'occupant de ses affaires et aimable avec tout le monde, Lilias n'a pas l'habitude de s'emporter facilement. Pourtant, elle n'a pu s'empêcher, une semaine plus tôt, de hausser le ton sur sa voisine. Cette dernière a prétendu, d'une voix assez forte, pour que tout le monde l'entende, avoir remarqué une ombre qui semblait tout sauf humaine se promener dans sa chambre du premier. Le son de Lilias n'a alors fait qu'un tour et, submergée par ses émotions, elle n'a rien trouvé de mieux que de lui répondre avec violence de se mêler de ses affaires et d'arrêter avec ses insinuations ridicules. La voisine, outrée par l'attitude de Lilias, est rentrée chez elle en criant à qui voulait bien l'entendre « Méfiez-vous de Lilias Hadi, éloignez-vous d'elle, éloignez vos enfants !» Lorsque Lilias a répété ces derniers mots à son amie, le visage de Nora est devenu extrêmement pâle et elle n'a pu retenir un gémissement. Mon Dieu, mais qu'avait-elle fait? Pourquoi s'être emportée de la sorte? Pourquoi n'a-t-elle pas simplement ignoré cette vieille vipère qui passe son temps à boire et à raconter des histoires abracadabrantes? Après avoir déposé son panier chez sa tante et échangé quelques mots, Nora décide de faire quelques pas le long du rivage avant de rentrer chez elle. La mer est aussi grise que le ciel, mais elle est calme. Petit à petit, l'eau se retire et laisse